Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Youssouf Fofana. Il est le cofondateur de Maison Château Rouge. Dans cet épisode, Youssouf revient sur son parcours et sur la genèse de Maison Château Rouge. Il nous fait revivre toute son aventure, de la création des 100 premiers t-shirts pour à l'origine financer un autre projet, en passant par ses premières ventes aux acheteurs des meilleures multimarques du monde et sa collab avec Monoprix. Il nous parle de ses rencontres providentielles, de l'importance de faire les choses avec le cœur et on parle de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Youssouf, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Youssouf Fofana de Maison Château Rouge. Salut.
Salut Adrien.
Comment vas-tu?
Très bien et toi?
Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Alors, Youssouf, j'ai 29 ans,
ouais.
Je suis originaire de Seine-Saint-Denis, donc à Villepinte, où j'ai fait toute mon enfance et j'ai fondé la marque Maison Château Rouge il y a maintenant 4 ans.
D'accord, ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance, voilà, où est-ce que tu as grandi, tu viens de me le dire, mais on va vraiment reprendre dans le détail tes études, tes stages, ton école de commerce. J'ai vu que t'avais passé par la banque et tout. C'est assez cool. Et est-ce que tu peux reprendre tout ça, s'il te plaît?
Bien sûr.
Je t'arrêterai à chaque fois que,
okay, pas
que
de
c'est intéressant pour moi.
Alors, c'est même finalement, en fait, à chaque fois que je discute avec des personnes, il y a beaucoup de gens de la mode, en fait, qui n'étaient pas du tout destinés à faire ça, j'ai l'impression. Et moi, pour le coup, j'ai, donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai grandi à Villepinte, dans le 93. J'ai fait mes écoles là-bas. Et ensuite, après, j'ai fait un bac ES.
Ouais.
Après, je pense qu'on pourra revenir dessus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu la chance de croiser des personnes qui ont toujours su me dire ou me motiver pour pouvoir prendre des chemins et faire des choses qui m'ont aujourd'hui amené jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, lorsque je devais faire je voulais faire un bac STG tout simplement parce que c'était la facilité entre guillemets. Et puis j'avais mon prof, ma prof principale qui était une prof d'histoire géo et mon prof de français qui m'ont reçu pour me dire que j'avais les capacités pour faire un bac ES et qu'il fallait que j'aille en ES. Donc j'ai fait un bac ES.
Okay.
Et une fois que j'ai fait mon bac ES, j'avais fait aucune demande pour faire un BTS ou un DUT ou quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvé à la fac. J'ai fait un an de fac en éco-gestion à Villetaneuse. Et là, c'était catastrophique. Je suis allé un semestre seulement à l'école. J'étais pas assez autonome.
Ouais.
C'était compliqué. Je devenais même un peu plus bête. Parce que j'allais vraiment pour m'amuser.
D'accord.
En étant en amphi, j'avais des potes qui venaient des villes d'à côté, donc on allait pour s'amuser. Et là, en fait, très vite, je me suis dit, si je veux vraiment faire quelque chose de concret, il faut que je reprenne des études où je vais pouvoir avoir ensuite un job. Et surtout parce que par rapport à mes parents, je pense que pour eux, il fallait que je travaille et que je fasse quelque chose de concret. Et j'avais vu qu'il y avait un BTS banque, en plus qui était dans le 18e, pas loin de la boutique là, au CFA Stephenson, et il recrutait en alternance. Et l'alternance était un moyen pour moi de pouvoir faire des études dans le supérieur sans avoir à dépenser trop d'argent et en étant rémunéré. Donc j'ai décidé de faire un BTS banque en alternance que j'ai réalisé pendant 2 ans. Et à l'issue de ce BTS, en fait, je me suis aperçu que la banque, c'était pas du tout un secteur qui me convenait.
Ouais.
Parce qu'on avait beaucoup d'objectifs. Enfin, moi, je le voyais plutôt comme étant conseiller clientèle au départ. Mais en fait, je me suis très vite aperçu que c'était un job de commercial. Parce qu'on vendait des produits bancaires. Lorsqu'un client venait nous voir pour un produit, en fait, on se retrouvait à lui vendre ce qu'on avait dans nos objectifs. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Donc, en fait, je me retrouvais à pas atteindre mes objectifs, mon directeur qui me relançait, etc. Et en fait, très vite, j'ai compris que c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'avais besoin de plus d'éthique, en fait, dans...
C'est vrai que c'est une vaste arnaque, cette histoire de banque.
De banque. Non, je vais parler sous... Fais attention, je sais pas qui nous écoute, parce qu'on a besoin des banques aussi. Donc,
oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais en tout cas, quand t'es au guichet et que t'as le petit vieux, la petite vieille qui arrive et que tu leur vends des produits dont ils
ont vraiment pas besoin. C'est un peu sordide.
C'est ça.
Quoi.
Ouais, c'est hyper. C'est trompeur parce qu'on parle de conseiller. Enfin, ouais. Moi, c'est toujours ce qui m'avait marqué, c'est qu'on parlait de conseiller. Ouais. Et puis au final, en fait, on se retrouvait. Par exemple, moi, je me souviens, on avait un objectif sur des cartes, des crédits revolving. Et en fait, à chaque fois qu'un client venait nous voir, qui avait un peu dépassé son autorisation de découvert, en plus, on a des listes de choses. En fait, on a des listes où après on peut activer. En fait, où il faut activer ensuite en fonction du problème lorsque le client vient nous voir. Eh ben, il faut lui proposer tel produit, etc. Donc en fait, ça devenait, c'était pas du tout ce que je voulais faire.
Trop aligné avec ton cœur et
c'est
ton
ça.
Esprit.
Ouais. Et du coup, après mon BTS, donc j'ai obtenu, j'ai décidé de me réorienter. Et puis là, j'ai fait une école de commerce en marketing et surtout avec une option web market parce que ça commençait à être aussi, en tout cas, le web était de plus en plus. C'était un secteur qui recrutait énormément. Donc j'ai fait ça et j'ai travaillé dans une start-up pendant 2 ans où on faisait des réseaux sociaux pour les grandes écoles et les entreprises.
D'accord.
Et là, ce qui m'a pas plu, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans quelque part, il y a quelque chose qui me va pas, c'est que dans le milieu start-up, j'avais l'impression en fait que tout était beau, il y avait une PlayStation, on s'amusait pendant qu'on était au boulot et tout était fait en fait pour qu'on reste très longtemps au bureau et en échange après c'était pas des salaires les salaires ne suivaient pas et je sais pas, je trouvais que c'était un peu une arnaque et puis en plus après moi je suis pas vraiment un geek donc je me retrouvais pas trop dans cet univers également.
Okay.
Et en parallèle, en fait, j'ai monté un premier projet avec un ami qui s'appelle Dara, qui était un projet qu'on a réalisé, je crois que c'était en 2012, où on voulait lancer une marque de vêtements. Mm-hmm. Donc, c'est venu assez tôt. On voulait lancer une marque de vêtements où lorsqu'on proposait aux clients, en fait, pour l'achat de vêtements chez nous, ils pouvaient apporter d'anciens vêtements qu'on recyclait et ça nous permettait de produire nos autres collections avec. Et chaque pièce était constituée à 70% de matière noble et 30% était d'une matière recyclée.
D'accord.
Et on voulait lancer une marque qu'on avait appelée Unnamed, je crois, à l'époque, et qu'on voulait vendre dans des conteneurs maritimes recyclés, itinérants, etc. Et moi, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est un projet qui est hyper cool. On avait fait un concours avec le concours JSVC. C'est un concours de l'entrepreneuriat social étudiant qui est porté par l'ESSEC et l'université de Berkeley. Et on est arrivé sous-finaliste de ce concours. Et là, moi, tout de suite, je me suis dit, bon, c'est bon, il faut le lancer. On va se concentrer sur ce projet. Et ce qui fait que j'ai fait mon master 1 et à l'issue de mon master 1, je me suis dit, OK, je vais trouver un job alimentaire et je vais me concentrer sur ce projet à 100%. Mais en fait, il me fallait beaucoup d'argent pour monter un projet comme celui-ci. Et finalement, j'ai retrouvé un boulot à la banque. Mais cette fois dans une banque de l'économie sociale et solidaire.
D'accord.
Qui est Crédit Coopératif, où ensuite j'ai travaillé donc au service informatique en gestion de projet au Crédit Coopératif pendant 3 ans.
D'accord.
Et ça fait long, hein, j'ai l'impression là.
Ouais, mais c'est bien. Ça fait que 7 minutes qu'on est ensemble.
D'accord,
encore du temps.
On va savoir. Et du coup, en fait, c'est pendant que j'étais au Crédit Coopératif, j'ai eu de la chance parce que je pense que quand je bossais en start-up, c'est là où j'ai découvert ce que c'était l'entrepreneuriat. On était partenaire d'un autre concours qui c'était le concours du MoveJ. Qui est le concours d'entrepreneuriat étudiant, mais ça c'était en France. Et là en fait j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui venaient de grandes écoles, qui avaient fait HEC, ESSEC, ESCP, etc. Et c'était toujours les mêmes écoles. Bon, moi j'étais dans une école qui était moins bien. Mais en voyant ça en fait je me suis dit, en fait finalement c'est quelque chose d'accessible parce que j'ai des parents qui sont pas entrepreneurs et pour moi, en fait, entreprendre, c'était quelque chose qui était très compliqué, sachant que j'avais l'impression de ne pas être issu d'une famille entrepreneur. Donc, je me posais pas la question. Et en voyant ces étudiants présenter leurs projets, faire leur pitch, etc., je me suis dit, OK, mais en fait, finalement, je suis pas moins intelligent qu'eux et je pense que je peux aussi le faire. Donc ça, c'est la partie entrepreneuriale que j'ai développée durant mes années en startup. Et ensuite, lorsque j'ai travaillé au Crédit Coopératif, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sociaux Je bossais notamment pour le mouvement des Colibris, enfin où on a eu parce que moi je bossais sur les bascules, sur les outils internet de la banque, donc j'ai eu affaire à beaucoup d'entrepreneurs.
Les Colibris, peut-être qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Les Colibris, les mouvements à bascule, là ce que tu racontes, oui. Tu peux spécifier un petit peu?
Alors le mouvement des Colibris, c'est un mouvement qui a été lancé par Pierre Rabhi. Et après tout est c'est beaucoup tourné autour de l'agroécologie, autour de la alors son livre de La sobriété heureuse, donc ça c'est un livre qu'on m'a offert en partant du blog, surtout au Crédit Coopératif. Bon, je veux pas rentrer dans le cliché, mais c'est par exemple un truc qui m'avait étonné, c'est lors d'un pot de départ d'un de mes collègues, ce qu'il a demandé au lieu de parce que tout le monde voulait lui faire une enveloppe pour son départ, ce qu'on fait dans toute entreprise normale, et notre collègue en fait ce qu'il a demandé, c'est que chacun adhère à une association. C'était sa demande pour au lieu de faire une enveloppe et de cotiser. D'accord. Et moi je trouvais ça hyper fort, en fait c'était plein de personnalités comme ça que j'ai rencontré et qui m'ont motivé. Et donc Pierre Rabhi, où après je me suis beaucoup renseigné sur
Donc toi tu t'es inscrit au Colibri?
Alors pas au Colibri moi, c'était pour une autre association, mais d'autres personnes de notre équipe s'étaient inscrits au Colibri. Et pour l'histoire du Colibri, je trouve que c'est une histoire qui est hyper forte. Enfin, je pourrais pas la citer dans exactement mot pour mot, mais c'est en gros, je crois qu'il y a un grand feu dans une forêt et tous les animaux décide de fuir en fait pour échapper à ce feu, sauf le colibri en fait qui prend un peu d'eau dans son petit bec et ensuite donc apporte l'eau pour essayer d'éteindre le feu. Donc il le fait à plusieurs reprises et tous les animaux lui disent en fait d'arrêter parce que ça sert strictement à rien, sachant que avec son petit bec il va pas pouvoir éteindre ce feu. Et le colibri en fait leur répond que lui au moins il aura fait sa part. Et moi je trouve que c'est ce qui m'anime aujourd'hui clairement, parce que je trouve que c'est tellement important avec tout ce qui se passe et le fait qu'on ait accès à autant d'informations, que le destin de chacun en fait à travers le monde dépend de, en fait peu importe où on se situe dans le monde, qu'on soit en Europe, le destin d'une personne qui est en Afrique, qui est en Amérique du Sud, qui est en Asie, en fait dépend aussi de nous, de la façon dont on consomme, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui m'anime. Et voilà, et c'est toutes ces choses-là qui ont, je pense, aujourd'hui fait que j'ai lancé la marque Maison Château Rouge et mon projet Les Oiseaux Migrateurs.
Très bien, on va rentrer en détail de tout ça. Juste pour finir sur ce premier projet là, t'as pris un job alimentaire et tu l'as démarré. Comment ça s'est terminé cette histoire?
C'est pas allé très loin. Non, c'est pas allé très loin. Au début, en plus, on était super motivés. On avait fait les concours. Je me souviens même que j'avais contacté le directeur du relais pour voir avec eux si on avait la possibilité de mettre en place des partenariats, etc. Et ensuite, après, on a dû faire un business plan. Et moi, le business plan, c'est quelque chose qui m'a traumatisé parce que ça m'a pris énormément de temps à le réaliser. C'était un peu, en plus, c'était chiant parce que on me demandait de faire des prévisions sur 5 ans, alors que je ne savais même pas en fait comment. En fait, moi, je savais pas exactement dans 5 ans qu'est-ce qu'allait devenir ce projet. Donc, c'était quand même hyper compliqué pour moi et moi, ça me parlait pas du tout. Donc, on a quand même essayé de faire ce business plan. On est allé à la chambre du commerce également. Et finalement, en fait, après, une fois qu'on a fait le business plan, on a pu voir en fait combien d'argent il nous fallait pour pouvoir lancer ce projet. Et ça montait il fallait plus de 100 000 euros, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais pas du tout cet argent. J'avais pas d'économie, rien du tout. Donc très vite, en fait, je me suis dit, je pense que c'est compliqué. J'ai voulu le faire plus simplement. Et en fait, je me suis aperçu que ça prenait trop de temps. Et puis même mon collègue avec qui je faisais le projet s'est démotivé également. Donc après, au final, on n'est pas allé très loin.
Donc t'es retourné à la banque.
Et je suis retourné à la banque. Mais c'est marrant parce que j'y réfléchissais la dernière fois. Et lorsque j'étais au collège, je crois que c'est la première fois que j'ai essayé de faire une marque, j'étais au collège.
C'est quand même une obsession depuis longtemps.
Après, je pense que pour beaucoup, la mode, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens. Et moi, à l'époque, quand j'étais au collège, il y avait Mohamed Dia, donc avec la marque Dia Collection. Il y avait Ernest avec Malamine Koné. Et tout ça, en fait, c'était des exemples pour nous. en vivant en banlieue, on voyait que c'était des exemples de réussite. Mmh. Parce que les exemples de réussite, on les avait à travers les sportifs, ouais. à travers les rappeurs. Mmh. Et puis, on avait à côté des Mohamed Dia ou des Malamine Koné. Et forcément, on avait tous envie de faire notre marque. Et aussi, même, on avait Mafia Kinfri aussi qui avait ouais. sa marque. Tout ça, c'était inspiré du streetwear américain, mmh. comme les marques comme Fubu, comme Cross Colors, etc. Et tout de suite, on avait envie de faire ça. Et ce qu'on avait fait avec mon frère aussi qui était complice, on est allé à la brocante, je me souviens, on a acheté des bombes, on a fait faire des pochoirs dans du carton et on a bombé sur des t-shirts la carte de l'Afrique. Et puis je sais plus ce qu'on avait noté, je crois que c'est Sultan d'Afrique, quelque chose comme ça. D'accord. Et on avait essayé de les vendre au collège. Et mais en fait ça tenait pas du tout la route et mais on avait essayé de faire ça et je me suis souvenu la dernière fois et je me dis que ben finalement Maison Château Rouge en fait c'est une évolution de ce premier projet qu'il avait ouais. fait au collège
le Sultan d'Afrique
ouais, exactement ouais.
Cool. Donc c'était quand même une obsession etc. Juste tu sais ce que c'est devenu toutes ces marques là Dia etc.
ou... Bah tout ça c'est des marques qui ont disparu. Je crois que Hermès est encore un peu vendu en province ouais. mais ce sont des marques en fait qui ont disparu parce qu'il y a eu énormément de licences. C'est des fondateurs qui ont fait les marques ensuite qui ont ouvert leur le capital et une fois que ça s'est ouvert en fait ils ont fait énormément de licences. Mmh. Il y avait des téléphones portables, des parfums, mmh. Des déodorants, etc. jusqu'à ce que la marque en fait ben soit tellement visible qu'elle a fini par qu'elle a fini par ouais. oui exactement ouais.
D'accord.
Et je pense que c'est un bruit, c'est ce qui a tué les c'est ce qui a
elles
tué
ont
ces
perdu
marques,
leur âme quoi.
Exactement.
Revenons donc. Alors, t'es en banque. Ça fait 3 ans que tu fais ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'as toujours cette petite lueur et cette envie de monter une marque de fringues. Explique-nous cette période-là.
Bah en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais plus en tête l'idée de monter une marque de vêtements, mais entre-temps, en fait, avec mon frère, depuis qu'on est en âge de travailler, même c'est un peu pareil pour toutes les personnes de la diaspora africaine, en fait, on réalise des envois d'argent quasiment tous les mois dans notre pays d'origine pour participer soit à la construction de centres hospitaliers, pour financer des projets scolaires, pour l'alimentaire également, mais tout le temps pour répondre à des besoins qui sont primaires. Mmh. Et on allait ensemble, on prenait la RERB, puis on allait à une réunion pour la construction d'un centre hospitalier au village. Et il y avait une cotisation, je crois, qui a été de 300 euros. Et en fait, on s'apercevait qu'il y a une nouvelle génération qui arrive après nous et qui n'a pas ce réflexe de réaliser ces envois d'argent. Nous, on le fait parce que nos parents sont les premiers arrivants. Mmh. Et nous, forcément, on a cette attache qui est forte avec le continent. Et on s'est dit, bon ben, qu'est-ce qui va se passer si, étant donné que la population locale est très dépendante de la diaspora, s'il n'y a plus d'envoi d'argent qui est réalisé sur place, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y a des aides internationales, on a des ONG qui sont présentes, enfin, un peu partout en Afrique, mais concrètement, ça ne permet pas un développement économique et social plus durable. Et de là, avec mon frère, on réfléchit et on se dit, pour qu'il y ait ce développement économique et social plus durable, pour nous, ça doit passer par l'entrepreneuriat. Parce qu'on a essayé de voir en fait quelles étaient les problématiques qu'on rencontrait sur place sur le continent africain. Et en fait, ces problématiques, elles étaient simples. C'est que il y a énormément de richesses et de matières premières en Afrique, mais elles ne sont pas transformées sur place. Et on sait que le pays qui transforme ces matières premières, c'est là où il crée plus de valeur ajoutée. Mmh. Ensuite, lorsqu'il exporte ses produits, plutôt que lorsqu'il exporte les matières premières, sachant que le cours des matières premières est régulé par des traders qui en fait veulent juste faire des plus-values et s'en foutent de savoir si le producteur à la fin du mois il a réussi à avoir suffisamment pour pouvoir faire vivre sa famille ou quoi que ce soit. Mmh. Donc il y avait tout ça qui nous a donné envie de monter un projet autour de ça et de permettre un développement économique et social durable sur le continent africain. Donc ensuite il y a le manque d'infrastructures et puis il y a le chômage qui est énorme. Et en fait toutes ces choses-là sont liées. À partir du moment où on ne transforme pas ces matières premières, forcément, donc on exporte ses emplois, mmh. donc il n'y a pas d'emploi et c'est compliqué de faire en sorte de créer une dynamique qui soit, comment dire ça, de créer un cercle vertueux. Et on a dit, bon ben on va lancer un projet qui s'appelle les oiseaux migrateurs, où on va permettre à des jeunes entreprises, pas forcément des jeunes entreprises, mais à des entreprises mmh. de pouvoir se développer en travaillant sur l'amélioration de leurs produits ouais. et en faisant toutes les démarches pour qu'elles puissent les exporter et les vendre à l'international, tout en transformant localement.
D'accord. Attends, donc, je te coupe 30 secondes. Il y a un téléphone qui sonne. Est-ce que je peux mettre en mode avion? Parce que ça fait des interférences. Ah, désolé. Je te coupe dans ton flow.
Pas de problème. Désolé.
Vas-y, continue.
Et de là, en fait, on se dit, OK, on va faire un premier projet. Ouais. C'est un jus de bissap qu'on va produire au Sénégal.
Le bisap, c'est quoi?
Alors, le bisap, c'est une boisson réalisée à partir de fleurs d'hibiscus. Ouais. C'est une infusion et c'est une boisson traditionnelle qui est très consommée en Afrique de l'Ouest. Un peu partout en Afrique, beaucoup en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal où il y a de nombreux champs et de cultures d'hibiscus. Donc, on se dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ce produit. Il plaît bien. Les gens, en fait, arrivent facilement à l'assimiler à un autre produit parce que ça ressemble un peu au jus de cranberry, etc. Et chez la diaspora, c'est un grand succès. Donc, on se dit, c'est un produit qui mérite d'être, de faire des, qui mérite d'être, comment dire ça?
D'être connu, ouais.
D'être connu, ouais, tout simplement. Et on va au Sénégal, donc on repère un premier partenaire et on décide de lancer une première production. On travaille avec 300 femmes, donc dans différentes coopératives dans les régions de Thiès et Kaolack. Et ensuite, on réalise la transformation des fleurs d'hibiscus à Dakar par une PME de 12 employés. On lance une marque qui s'appelle Bana Bana. Donc avec on revoit toute l'image de marque, on fait une belle bouteille et on décide d'exporter ce produit pour le commercialiser en France. Mais on doit lancer une première production. Et pour financer cette première production, encore une fois, ben moi, j'ai pas d'économie. Donc, ouais. Toujours, on a ce truc du business plan. Mais là, cette fois, je fais pas de business plan. Et là, c'est hyper instinctif où je me dis, parce que donc j'ai ce goût pour... j'aime la mode depuis très longtemps. Et je me dis, il y a une tendance qui commence à arriver autour de l'Afrique, c'est au niveau de l'art, au niveau de la gastronomie, mais aussi au niveau de la mode, parce que je vois dans les défilés à Burberry, on voit du wax, on en voit aussi un peu chez Zara, etc. Et je me dis, OK, bon, ben, il y a quelque chose à faire autour de ça, mais il faut le faire intelligemment parce que depuis que je suis jeune, le wax, moi, je l'ai vu à Châteaurouge. Enfin, c'est arrivé à Paris, à Châteaurouge, pas par Zara ni par Burberry, mais à Châteaurouge, par les commerçants du quartier, de la diaspora africaine. Donc, je me dis, OK, bon, ben, on va faire une petite marque. On va acheter nos tissus chez les commerçants du quartier à Châteaurouge. On va produire à Paris. On va faire un top où on va essayer de mixer nos différentes influences et cultures et puis en faire 100, les vendre sur Internet et avec les bénéfices, financer notre premier projet de Bisap.
Et vous aviez besoin de combien pour Bisap?
Pour le Bisap, pour la première production, on avait besoin de quoi? Je crois qu'il nous fallait à peu près, je crois que c'était 5000 euros. Ouais, c'est pas énorme, hein.
C'est beaucoup d'argent et c'est
exactement.
Et c'est pas énorme non plus.
C'est ça, ouais. Ouais. Et voilà. Après, oui, moi, c'est vrai que c'est 5000 euros. Je ne pouvais pas les avoir directement.
Tu faisais pas avec ton job en banque.
Exactement.
C'était pas suffisant.
C'est ça, ouais. Et du coup, je me dis, OK, bon, je vais faire 100 top. Je les vends sur Internet. Donc, je fais un site Internet rapide, etc. Et je me dis, une fois que c'est vendu, on se concentre sur le projet d'association.
Ouais. Et t'as pas pensé à faire un crowdfunding?
Non. Alors, je sais pas pourquoi, c'est pas que j'ai du mal avec ça parce que je trouve que c'est hyper c'est fort parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été montés grâce à ça, mais parce que la démarche qu'on a à travers les oiseaux migrateurs qui était de dire qu'il faut il faut qu'il y ait une autonomie des populations locales, il faut de l'entrepreneuriat, etc. Je me suis dit que pour que ce projet soit pour que je puisse ensuite aller voir une entreprise en Afrique et dire voilà, on va essayer de participer au développement de l'entreprise, il fallait que moi, de mon côté, j'ai réalisé déjà un projet qui ait fonctionné pour être légitime, parce que je pouvais pas arriver comme ça, faire du crowdfunding, récupérer, donc demander de l'argent, faire mon projet, et ensuite aller voir d'autres personnes pour leur dire voilà, il faut faire comme ça pour que votre projet puisse marcher. Et c'était un peu un cas d'école pour nous de faire Maison Châteaurouge, c'était de voir en fait avec Bana Bana et Maison Châteaurouge, c'était avoir des cas concrets et de montrer si jamais on applique nos idées que c'était possible et qu'on pouvait ensuite les dupliquer, permettre à d'autres entreprises de pouvoir profiter de notre expertise entre guillemets et de pouvoir ensuite après améliorer leurs produits et les vendre à l'international.
Alors comment vous les avez vendus ces 100 t-shirts? Parce que mine de rien, c'est pas anodin, 100 t-shirts, c'est pas rien.
C'est pas rien, et puis même moi je m'en souviendrai toute ma vie parce que ma première production, je l'ai reçue dans un carton que j'ai porté, j'ai pris le RER avec et que j'ai stocké dans ma chambre. Donc je m'en souviens très bien et je sais que c'était volumineux. Je me suis dit, OK, comment je vais faire pour vendre tout ça?
Ouais. Et j'avais juste pour les produire, comment t'as fait?
Alors, pour les produire, ça aussi, c'est un autre truc. Mais ma vie est remplie. Il y a plein de choses où on sait même pas comment ça s'est passé. Mais comment j'ai fait, c'est qu'au départ, donc j'avais fait mes dessins et je suis allé voir un tailleur. En fait, c'est le tailleur de mes sœurs qui est dans un foyer Sonacotra à Montreuil. Donc il s'appelle Asana. Et je vais le voir avec mes dessins. Et mes sœurs, en fait, devaient faire des tenues pour un mariage. Et il restait du tissu. Donc je lui montre mon dessin. Je lui demande s'il peut me reproduire le top. Donc je lui laisse. On va les récupérer, je crois, une semaine après. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dessiné. Donc c'était hyper compliqué au niveau des finitions, etc. Mmh. C'était impossible. Donc j'ai essayé. Ensuite, je suis allé voir un tailleur dans le quartier à Châteaurouge. Pareil, ça marchait pas. Ensuite, je suis allé voir un tailleur indien qui est près de Gare du Nord. Ça marchait pas du tout. Et là, je me suis dit que ça va être compliqué. Je pense que c'est impossible, en fait, de faire ce que j'ai en tête. Et après, ce que j'ai fait, c'est comme j'avais pas du tout de connaissances en couture, etc., je suis allé faire le tour des fripes, où je suis allé chercher, en fait, une pièce qui ressemblait à ce que j'avais en tête. Enfin, c'était pas exactement le même modèle, mais quelque chose qui avait l'aspect, ou en tout cas la forme de ce que je voulais avoir comme rendu. Donc, j'ai récupéré une pièce en fripe. J'ai fait un croquis où j'ai noté toutes les modifications que je voulais apporter dessus. Mmh. Et ensuite, après, j'ai une amie qui travaillait qui était en école de mode et qui avait un contact d'un atelier qui était à Paris, qui était dans le Sentier. Et j'ai envoyé un message pour savoir si elle connaissait quelqu'un, et elle m'a donné le numéro de téléphone, et je suis allé le voir. Je lui ai apporté mon croquis et mon modèle, et il m'a dit repasse dans 3 jours. Et je suis revenu et ça correspondait exactement à ce que je voulais. Et puis il m'a fait confiance et il a accepté de me lancer ma première production. Et ce que j'ai fait, ouais, de mes 100 pièces. Et même pour financer ma première production, ce que j'avais fait, c'est qu'avec ma première paye, j'avais pris la moitié pour payer mes tissus. Et ensuite, j'ai attendu le mois suivant avec la moitié de ma paye pour financer la production. Et c'est comme ça que j'ai lancé mes premières pièces. Ouais.
D'accord. Et donc, comment tu les as vendues?
Comment je les ai vendues? Comment je les ai vendues, un peu à la sauvette. Hein. Je me suis mis à Châteaurouge. Okay. J'ai mis un carton. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Non,
mais là, tu m'as fait marcher à mort, salaud.
Non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un site internet. Et là, c'est pour ça que je me dis, chaque chose que j'ai fait dans ma vie précédente, en fait, ça me sert, en fait, dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je crois pas du tout au hasard. Et je pense que tout est une succession de choix qui, en fait, nous emmène à un but. Et même si je le savais pas au départ, aujourd'hui, ça m'a servi parce que j'ai fait mon site internet et je me souviens même que je voulais le lancer le jour de mon anniversaire parce que comme ça, je suis beaucoup sur les dates tout le temps. Et j'ai pas réussi à le faire, donc je l'ai lancé un jour après. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait un shooting dans le quartier. Et ce shooting avait été relayé par il a été relayé par la presse. Donc, on a eu la chance d'avoir Nelly Rodi qui avait fait un article sur son blog. Je sais pas s'ils l'ont toujours. Il y avait un blog Nelly Rodi. Et puis, ils ont parlé de Maison Châteaurouge. Ensuite, on a eu un article dans Paulette Magazine. Il y a un autre blog qui s'appelle Nothing But The Wax, qui est un blog autour de la mode afro, qui a parlé de nous.
Comment t'as été les chercher?
Je suis même pas allé les chercher. Moi, j'ai juste fait un compte Instagram. J'ai fait un compte Instagram où j'ai posté mes photos. Ouais. Et je sais même pas comment ils sont tombés dessus. Et même pour te dire, au départ, lorsqu'on m'envoyait des mails pour la presse, etc., je répondais même pas. Parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que... En fait, je mesurais pas, en fait, ce qui était en train de se passer. Donc, je répondais pas. Et même pour les interviews, etc., je voulais pas, parce que même une fois, il devait faire je crois que c'était pour Chic Magazine, où il devait faire un article avec les 5, je crois que c'est 5 designers à suivre ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais je suis pas designer, j'ai fait que un top, ça fait pas de moi un designer. Donc, je refusais, en fait, au départ, de répondre aux interviews, etc., parce que je me sentais pas du tout légitime. Mais en fait, ça a pris hyper vite, et même pour Nelly Rodi, après, je pense que c'est des gens, forcément, ils sont au courant de tout. Enfin, ils vont énormément sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, etc., quelles sont les tendances. Et nous, on a eu la chance d'avoir aussi le nom Maison Châteaurouge, qui est un nom qui parle à tout le monde. Enfin, ça parle à la fois à la diaspora comme aux Parisiens, et à l'international, c'est la mode parisienne lorsqu'on parle de Maison Châteaurouge, donc c'est hyper fort. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens ont accroché et ont voulu parler de nous. Et en fait, très vite, moi, je m'en souviens, mes premières commandes, c'est 2 commandes au Japon et 1 commande aux États-Unis. Les premières commandes sur le site internet.
Mais tu devais être comme un dingue. J'étais
au boulot, je m'en souviens. Donc moi, je mets le site en ligne à 4h du matin, parce que j'ai pas dormi. Ouais. Je voulais le sortir le 4 mai et j'ai pas réussi, mais j'ai pas dormi jusqu'à 4h du matin. Je mets le site en ligne avec un shooting fait vraiment à l'arrache. J'ai détouré avec Photoshop, c'était vraiment pas beau. Enfin non, il y avait un ami qui s'appelle Risky qui m'avait aidé à détourer toutes les photos, qui avait fait un shooting dans un studio. J'ai fait les photos, j'avais pas de lumière, rien du tout. Les photos étaient un peu pixelisées, etc. Mais j'y croyais. Enfin, j'avais foi en ce que je faisais, donc je me posais pas de questions. Je le fais comme ça. Je mets les photos, je mets en ligne. Je me dis bon ben, je pense qu'il y aura quelques achats. Et je crois que le premier jour, il y a 25 commandes le premier jour. Et là, à chaque fois, je me rappelle, j'étais dans mon bureau et à chaque fois que j'avais une commande, j'allais voir mes collègues et je leur dis ouais, j'ai eu une commande et je revenais. Et en fait, ouf. Et ça s'arrêtait plus.
Et j'avais ça, tout vraiment, le temps. Vraiment, ça venait d'Instagram donc principalement, ça,
tout,
de Facebook,
tout venait d'Instagram. Ouais, tout venait d'Instagram. C'est vraiment des gens qui ont suivi tout de suite la page sur Instagram et qui ensuite ont passé les commandes une fois que c'était en ligne.
Mais Instagram, tu l'avais mis en route vraiment. T'avais raconté l'histoire depuis le début.
Ouais, j'avais commencé un peu avant parce que au départ, je montrais des photos du quartier. Ensuite, on avait fait, parce que nous, d'abord en 2014, en fait, pour le lancement de l'association, on avait fait un événement dans une friche. Dans le quartier, donc à Châteaurouge, parce que justement on voulait montrer qu'on voulait on s'appropriait ce quartier, parce que voilà, je pense que
Tu n'as pas trop raconté, je crois, que l'histoire de l'association des oiseaux migrateurs. Tu peux revenir un petit peu en détail sur tout ça.
Bien sûr, oui, parce que nous ce qu'on s'est dit en fait, c'est que on est parisien et on a une culture africaine qui est forte, qui est ancrée, qui fait partie de nous. On peut pas seulement avoir un impact sur le continent africain, sachant qu'on est parisien. Donc, c'est important pour nous aussi d'avoir un impact à Paris. Et avoir un impact à Paris, c'était sur le quartier de Châteaurouge, capitaliser sur ce quartier qui est considéré comme étant le quartier africain de Paris. Et aussi parce que ça, pour nous, en faisant ça, parce qu'il a aussi un quartier qui avait pas forcément une bonne réputation. Enfin, même jusqu'à présent, il y en a qui osent pas trop venir, etc. Et pour nous, c'était important, c'est que, OK, on veut permettre à des entreprises africaines de pouvoir exporter leurs produits, les vendre à l'étranger. Mais à côté, à Paris, on a le quartier africain de Paris qui a pas une bonne réputation. Qui aura envie de consommer des produits africains si on n'est pas capable de changer d'abord l'image qu'on a de ce quartier africain de Paris? Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on travaille dans ce quartier. On a réalisé, donc pour le lancement de l'association, on avait fait un événement dans une friche, donc à Châteaurouge. On a travaillé avec les commerçants du quartier. On a fait un stand avec des produits locaux où on mettait des explications avec des recettes. Il y avait un stand de cuisine. Les gens pouvaient se poser. Il y avait de la musique. Il y avait pas mal de choses, etc. Et puis voilà, pour nous, c'était un premier pas. En tout cas, c'était un premier événement qu'on a réalisé. Et c'était aussi pour voir aussi comment les gens réagissaient. Donc, c'était hyper important pour nous de faire ça. Et du coup, ensuite, moi, j'ai alimenté mon compte Instagram à partir de ça aussi. D'accord. Donc, je mettais des photos. Je mettais aussi des photos lorsqu'on faisait les prototypes. Donc, il y avait ces photos, etc. Et ensuite, après, j'ai mis le shooting du quartier. Et puis, c'est monté comme ça. En plus, j'ai même pas un gros compte Instagram perso. Ouais. Donc, c'est même pas ça qui a fait que lorsque j'ai lancé ma marque, ça a pris directement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, pour la plupart, il y a beaucoup de marques qui fonctionnent très vite. Parce qu'au départ, en fait, c'est soit un influenceur ou quelqu'un qui est très suivi, qui ensuite, après, décide de lancer sa marque et qui a une forte communauté. Et la communauté, donc, suit. Et du coup, la marque, en fait, prend directement. Alors que nous, c'était pas du tout le cas.
Partait de zéro.
Ouais, de zéro, ouais.
D'accord. Et donc, quand tu lances les 100 premiers t-shirts, t'as combien de followers sur Instagram?
Sur le compte Instagram de Maison Châteaurouge, je crois qu'on n'est même pas à 1000.
Ouais.
Ouais, on n'est même pas à 1000 followers encore.
Et donc, tu dis officiellement sur ton compte Instagram, voilà, les t-shirts sont en ligne et le premier jour, t'as 25 commandes.
Dès le premier jour, 25 commandes et ensuite, après, ça s'arrêtait plus. Et moi, j'étais donc, je travaillais encore à ce moment-là et ce que je faisais, c'est que j'allais au travail avec mes cartons. J'avais un sac North Face où je mettais dedans mes commandes et à ma pause du midi, je préparais mes cartons, j'allais à la poste et je faisais mes envois. Et je crois qu'au bout de, au bout d'une semaine, j'avais vendu 50% du stock. D'accord. Et après, au bout de deux semaines, je crois qu'il restait quasiment plus rien. Il me restait que les tailles larges, je m'en souviens.
Ouais.
Et c'est là, après, j'ai compris qu'il fallait réfléchir aussi lorsqu'on fait le
sizing.
En termes de sizing, parce que moi, j'avais fait tout la même quantité, sans me poser de questions au départ.
OK. Et donc, principalement, c'était en France, à Paris, aux États-Unis, au Japon, c'était où?
C'était international, dans le monde entier. Ouais. On avait même en Belgique des commandes et aussi en Angleterre. Ouais. Ça, c'est, je pense aussi, c'est beaucoup lié à Nothing But The Wax, parce qu'elle a une forte communauté. Je pense que finalement, en fait, cette communauté que moi j'avais pas, en fait, finalement, c'est grâce à des reposts qui ont été réalisés sur des blogs comme celui-ci, j'ai pu en fait acquérir des personnes de ces communautés, et c'est ce qui fait que ça fait gonfler la communauté de Maison Châteaurouge.
Ouais. Ok. Et donc là le pari est relevé. Donc là, tu lances ta production de boissons au Sénégal.
Exact, oui.
Et enfin, explique-nous tous ces moments-là. Et à quel moment tu t'es dit, mais en fait, le business, il est peut-être pas forcément sur les boissons, il est sur la mode.
Sur la mode. Bah, en fait, ça s'est fait en, bah, on lance notre première production au Sénégal. On lance à peu près 3000 bouteilles. Ce qui est, c'est pas énorme, hein. Donc, on lance 3000 bouteilles au Sénégal. Et en parallèle, en fait, on est contacté par un autre cabinet de tendance, qui est Martin Leherpeur, ouais, qui nous contacte. Et, parce qu'il faisait sur le salon Who's Next, il s'occupait du forum des tendances. Et sur le forum des tendances, il y avait une tendance autour du street sapper. Mmh. Et je me souviens que j'avais reçu un message sur Instagram de Fanny, qui était, je crois qu'elle était stagiaire là-bas à l'époque, qui m'envoie un message sur Instagram parce qu'elle voulait me parler de ce projet. Et en fait, très vite, on est contacté et puis on est invité sur le salon Who's Next. Et lorsqu'on est invité sur le salon Who's Next, sur le forum des tendances, en fait, on voit l'engouement qu'il y a autour de la marque. On récupère à peu près, je crois, 200 cartes de visite. On a énormément de monde qui veut passer commande, etc. Et en fait, nous, on est parti sans line sheet. On savait même pas du tout comment décomposer nos prix, etc. Ouais.
C'est quoi une line sheet pour ceux qui connaissent pas?
Une line sheet, c'est un document où on a toutes nos pièces de la collection, ouais, avec les prix, la composition, etc. D'accord. Et c'est ce qui permet ensuite aux acheteurs de passer les commandes. Okay. Et moi, je savais même pas que ça existait. Nous, on est allé parce qu'on avait notre stand de Bissap, ouais, et qu'on montrait qu'on faisait des vêtements Maison Château Rouge. Et là, on récupère. En plus, je crois que dans les cartes de visite, on avait Beams, on avait United Arrows, il y avait Merci.
Sont des gros retailers, ouais, internationaux.
Exactement,
quoi.
Ouais, exact. Et même, je m'en souviens, Beams, leur équipe, ils sont venus jusqu'à Château Rouge pour voir la collection. Et moi, j'avais que deux pièces.
Et tu savais qui c'était quand même?
Après, j'ai fait des recherches. Ouais. Ouais, j'ai fait des recherches et ils sont venus, ils étaient tous habillés comme des garçons. Je crois que il y avait à peu près 6 filles et une traductrice. Ouais.
Parce que Beams, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros multimarque au Japon. Japonais, ouais. À Tokyo, ils ont, il y a une rue où il y a pratiquement que des magasins Beams, quoi. Mmh. Et c'est énorme. Ils sont hyper puissants.
C'est tout ça où je me suis dit, OK, en fait, je pense que c'est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais et ce serait dommage, en fait, de ne pas, de ne pas pousser la marque beaucoup plus loin et où elle mérite d'aller, parce que si on a des boutiques comme Beams ou Merci qui s'intéressent à Maison Château Rouge, je pense qu'il y a beaucoup d'autres boutiques qui pourraient être intéressées. Ouais. Et là, en fait, du coup, je garde une seule carte qui est celle de la directrice mode de chez Merci, Valérie Gerbi, et elle me recontacte, en fait, parce qu'elle prévoyait d'organiser un événement qui s'appelait Sowax en février 2016. Donc la marque est lancée en 2015 et en février 2016 on entre chez Merci et là ça a été un hyper gros succès, surtout qu'on a eu la chance, c'est qu'on est arrivé pendant la Fashion Week. Enfin, c'était pas calculé, mais comme c'était pendant la Fashion Week, donc il y avait énormément d'acheteurs internationaux qui passaient, et forcément lorsqu'ils sont à Paris, ils passent par Merci, ils passent chez Colette, ils vont voir Le Bon Marché, Galerie Lafayette, etc. Et ils nous ont revus chez Merci. Donc là, on m'a encore relancé pour savoir où est-ce qu'on présentait la collection, où est-ce qu'ils pouvaient passer commande, etc. Et moi, j'étais pas encore prêt. Et pendant que j'étais chez Merci, j'ai été contacté par Le Bon Marché. Et là, je me suis dit, OK, bon, je pense qu'il faut se professionnaliser, parce que jusqu'à présent, moi, j'étais sous format associatif en plus. Donc, c'était même pas une entreprise. Et là, je me dis, OK, il faut qu'on se professionnalise. Et donc, en septembre, on entre au bon marché. Et en parallèle, moi, je décide d'entrer dans un showroom qui est le showroom MEK, où on décide ensuite de présenter nos collections là-bas. Et on présente donc pour l'hiver pour la SS17, et on a à peu près, je crois qu'on a une vingtaine de boutiques qui décident de passer commande. Et là, c'est très bien, mais ça fait très peur aussi. Ouais. Parce qu'en fait, ça passe sur des volumes c'est totalement différent. Enfin, je faisais mes petites productions à Paris, je faisais des productions par 100. Enfin, c'était facile à gérer. Et là, on passe à plus de 2000 pièces.
Là, ou en global?
Non, en global. Ça reste, je pense que par rapport à d'autres marques, ça reste petit. Mais moi, en plus, je bossais tout seul sur la marque.
Et puis, t'étais toujours à la banque?
Et j'étais toujours à la banque, ouais. C'est le moment, en fait, où j'ai décidé de quitter la banque. C'est parce qu'il y a eu Le Bon Marché et qu'ensuite, j'ai décidé d'aller, de rentrer dans le showroom. Ouais. Mais à côté, en fait, je me dis, OK, bon, là, il va falloir gérer. Donc après, c'est d'autres problèmes, en fait, qui arrivent. Ouais, mais c'est hyper positif.
Ouais. Mais il y a un truc que tu dis pas, et c'est que le produit, il est cool quand même. C'est que ça fonctionne parce que tu surfes sur la tendance du wax, que ton histoire et ton pourquoi, il est incroyable. Mais le produit, il est trop cool aussi.
Oui,
c'est ça aussi. Je pense que tu as beaucoup de feedback dans ce sens-là. Mmh. Ah, c'est que pour la première fois, le wax est traité de façon hyper moderne et dans l'air du temps.
Ben ça c'était et c'est marrant que tu me dis ça parce que ce qui m'a poussé à faire ce projet, c'est que je me suis toujours posé cette question, c'est que ce que je voyais, en tout cas l'offre qu'il y avait avec les marques qui faisaient du wax, en fait il n'y a aucune marque où j'arrivais à me projeter, me dire ah oui ça je peux le porter, et je me suis dit comment je ferais du wax moi. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu l'idée de faire Maison Châteaurouge et mes produits comme ça. Et pour moi, l'esthétique était hyper important. Et je vois un exemple comme Veja. Par exemple, Veja, ils ont des chaussures, elles sont très très belles. Et les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, même qui achètent pour l'esthétique. Et ensuite, il y a l'histoire qui est derrière. Et je pense que pour Maison Châteaurouge, c'est comme ça aussi que je me suis... Quand j'ai imaginé les premières pièces, c'était comme ça aussi. C'est que je me suis dit, même avant qu'il y ait un projet social derrière la marque, c'était de faire un produit qui soit séduisant, qui soit beau, et que les gens aient envie de l'acheter ou se retournent en fait lorsqu'ils voient cette pièce. C'était d'abord ça, et qu'ensuite, après, ils découvrent l'histoire. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu ouais. penses ça. Ouais.
Non, mais je pense que c'est quand même un... C'est là où le bas blesse pour beaucoup de marques, c'est que les gens, ils sont obsédés par le storytelling, ce qu'on racontait comme histoire, etc. Mais c'est comme quand tu vas au restaurant, faut que ça soit ce qu'il y a dans ton assiette, faut que ça soit hyper bon, quoi.
Et
qu'il y ait un bon rapport qualité-prix, et que l'histoire soit belle, et que le service soit cool, etc.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Revenons sur donc les différents milestones, parce que donc là tu te professionnalises, enfin tu te dis je mets à plein temps dessus. Tu vas chercher de l'aide où? Tu commences par quoi? Tu recrutes qui en premier, etc. Raconte-moi tout ça.
Alors ça c'est des bonnes questions. alors au départ en fait pendant 2 ans c'est des potes en fait qui m'aident, mais de façon informelle à droite à gauche entre leurs de temps en temps, donc lorsque j'ai des événements, etc., ou des potes graphistes, DA, qui m'aident à faire des que ce soit des créas pour les réseaux sociaux, etc. Attends, j'essaie de me souvenir exactement l'ordre dans lequel tu m'as dit pour pas me tromper, mais oui, mais sinon pendant 2 ans en fait je suis tout seul à travailler sur le projet. Et là je commence à devenir un peu fatigué. Mais je m'en rends pas compte. Enfin, je fais plein de choses, et je me rends pas compte que c'est beaucoup. Donc, j'ai la chance après de rencontrer Priscilla Diocco de la Fédération Française du Prêt-à-Porter, qui me voit au Who's Next et qui vient me voir et qui justement en fait, et j'ai trouvé ça hyper touchant, c'est qu'elle était, en fait, elle trouvait que le produit était très juste dans son design, etc. Elle trouvait ça hyper juste, et donc elle m'a en fait c'est elle qui m'a parlé de la Fédération Française du Prêt-à-Porter pour la première fois, et de là en fait j'ai eu la chance en rencontrant aussi Perséphone de l'agence MEK et Priscilla de pouvoir moi me professionnaliser et de me poser les bonnes questions par rapport au développement de la marque, parce qu'au départ je me posais pas du tout de questions. Moi je vendais ça sur internet, et lorsqu'il y avait une boutique qui venait me voir, j'essayais de voir si je pouvais y être ou pas, mais je pensais pas vraiment à une stratégie sur le long terme. Et après on a eu la chance une petite ellipse, mais il y a la Fédération du Français du Prêt-à-Porter qui a lancé le programme Talent.
Oui.
Et on a eu la chance d'être sélectionné dans le cadre de ce programme, qui nous a permis en fait de nous professionnaliser, de nous structurer surtout, parce que moi par exemple c'est bête, mais je ne connaissais pas du tout quels étaient les métiers de la mode. Pour moi je faisais tout, je faisais de la prod, je faisais de la communication, je faisais du stylisme, etc., mais j'étais pas capable de me dire que c'était des métiers dissociés. Pour moi le mec qui dessinait les vêtements, c'est le même mec qui allait à l'atelier pour faire la production. Enfin je me posais pas de ces questions. Et en allant à la Fédération Française du Prêt-à-Porter avec ce programme, ça nous a permis de nous structurer. Entre temps j'ai deux amis qui ont rejoint à l'aventure, donc ils sont Johan et Mehdi, qui ensuite a travaillé sur la production, Johan qui lui a travaillé sur l'aspect marketing et la communication, et moi comme ça, ça me permettait de me concentrer sur la direction artistique, sur le stylisme, enfin sur le développement des collections, etc. Et c'est comme ça ensuite qu'on s'est organisé, et puis ça nous a aussi permis de nous structurer aussi sur pour réaliser la structure des coûts, des prix, faire une vraie stratégie commerciale, savoir aussi comment on envisageait le développement de la marque, etc. Et je pense que ça a été hyper important pour nous, dans la mesure où ça nous a permis de nous poser les bonnes questions. Parce que moi, j'avais pas suffisamment de personnes autour de moi qui travaillaient dans la mode pour pouvoir me challenger sur mes idées, pour savoir si on était dans le juste ou s'il fallait revoir certaines choses, etc. Donc c'est pour ça que c'était hyper important pour moi.
Tu peux étayer avec des exemples concrets? Quel type de décision ils t'ont fait prendre, et quelles grosses bêtises t'as évité grâce à eux?
Par exemple, moi, je voulais faire de l'homme. Et en fait, ben, faire de l'homme, c'est développer une collection. Et ouais. Développer une collection, ça coûte de l'argent. Et en fait, ben, moi, j'avais, ben, comme j'ai jamais fait de business plan, j'avais pas de plan de trésorerie. Tout a été autofinancé depuis le départ. Donc, en fait, on savait même pas si on était capable de pouvoir développer cette collection. Mmh. Et surtout, même, il y avait aussi, il fallait réfléchir à comment, en fait, on distribuait ensuite cette collection. Il fallait toute une stratégie, savoir où est-ce qu'on va vendre cette collection, sachant que notre showroom, c'était un showroom qui était plus spécialisé sur de la femme, etc. Et en fait, donc, du coup, on s'est posé les bonnes questions. Ça, c'est un exemple vraiment concret où là, on s'est dit, OK, non, il faut se poser la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et après, il y a d'autres choses aussi, c'est même sur des aspects juridiques, parce qu'on a fait énormément de collaborations. Notamment une collaboration avec Monoprix,
oui.
Avec plein d'autres marques.
Il est comment d'ailleurs toutes ces collaborations, c'est fou.
Ben Monoprix, c'est assez ouf, c'est que c'est très tôt en plus ils m'ont contacté, je crois que c'est pareil 2016 juillet, et c'est assez marrant parce que c'était forcément quand on entreprend il y a des hauts et des bas, et c'était une journée où je voulais pas travailler parce que je crois qu'il y avait un fournisseur à régler et j'avais pas encaissé quelque chose, donc je me suis dit je vais pas être capable de le régler, il va me prendre la tête, etc. Et je me suis dit, OK, bon, ben, je coupe mon téléphone, je dors toute la journée. Et puis demain, je reviens avec la pêche, etc. Et en fait, donc, naturellement, je ne peux pas laisser mon téléphone éteint, donc je le rallume et je vais dans mes mails. Et je reçois un mail avec l'en-tête. L'objet du mail, c'est Maison Châteaurouge X Monoprix. Et là, je me dis, c'est quoi ce truc? Et là, on a, Cécile Coquelet, donc, qui demande donc un rendez-vous pour que je puisse lui présenter la marque, et parce qu'ils avaient envie de faire une collaboration avec Maison Châteaurouge. Et ça, la marque avait un an et demi seulement. Et je m'en souviens même qu'elle m'avait dit qui te dit que dans deux ans, ta marque sera encore là? Parce qu'en vrai, c'était un vrai pari. Et moi, j'étais convaincu qu'on sera encore là. Et puis ça a été... Ils ont vu juste parce qu'on a été... Je crois qu'on a fait le plus gros succès. On a été leur plus grosse collab. En 20 ans de collab, je crois qu'on a battu des records. Donc c'est hyper fort. Ouais, c'est incroyable, ouais.
C'est ouf.
Et puis je voyais tout le monde avec du Maison Châteaurouge. Enfin,
parce que là, c'est la grande distrib et t'arrives.
Ouais, là, c'est un autre niveau.
C'est un autre level. Et d'ailleurs, dans cette collaboration Monoprix, c'est la question que je me pose toujours. Comme, je sais pas si t'as pas fait encore La Redoute.
Non.
Ça viendra. Teaser. Non, je sais pas. Je sais rien du tout. Hein. C'est eux qui financent le stock, etc. Et toi, tu prends des royalties en fait sur ce qui est vendu, c'est ça, hein,
c'est un forfait. Ouais. Tu designes une collection et en fait, t'es payé pour le design. D'accord. Que tu réalises.
Okay.
Mais il n'y a pas de...
C'est pas en fonction du volume.
C'est pas en fonction du volume, non. Après, il faut savoir négocier. Non, je sais pas.
tous négocier.
Non, et après, je pense que dans tout, c'est une question de feeling. Et puis tout... nous apporte quelque chose. Mmh, le fait d'avoir fait cette collaboration avec Monoprix, déjà on le voit au niveau du passage qu'il y a eu nous en boutique, les ventes qu'on a réalisées ensuite sur le site internet, ouais. Et en termes de notoriété pour la marque, parce que je pense que c'est bien d'être une marque qui niche, etc. Mais je pense que derrière, on est quand même des entreprises et on fait du business. Et plus une marque est connue, plus le chiffre d'affaires est élevé. Enfin, c'est logique, quoi. Ouais. Et donc, c'est important pour nous d'être connus par un grand nombre. Et avoir fait une collaboration avec Monoprix, ça a été hyper fort pour nous parce que ça nous a permis de nous faire connaître par un plus grand nombre. Et aujourd'hui, on le ressent. Je crois qu'un client sur deux qui vient nous voir à la boutique est un client qui nous a connus grâce à cette collaboration. Donc, c'est énorme.
Et donc, aujourd'hui, donc, explique-nous comment vous distribuez. Vous êtes en direct sur votre boutique e-commerce.
Exact.
Ici, donc dans la boutique où on est dans le 18e. Mm-hmm. Redis-moi l'adresse, c'est quoi? C'est...
On est au 40 rue Mira.
40 rue Mira,
c'est ça.
T'as aussi des revendeurs, des wholesale, enfin, tu vends en wholesale, etc.
Exactement.
Qu'est-ce que t'en penses de ce modèle-là aujourd'hui? Est-ce que t'as envie de passer en DNVB pur et dur, ouais. ou tu restes sur ce modèle wholesale qui t'a fait connaître finalement?
Oui, alors c'est un modèle qui m'a fait connaître, mais à côté de ça, quand même, la plus grosse partie de nos ventes, elles sont faites en direct. Et je pense que ce qui est important, c'est que le wholesale, en fait, doit nous servir de... c'est pour l'image, c'est pour la communication, c'est pour la visibilité. Mais derrière, en fait, il faut être capable de pouvoir avoir... être armé en fait pour pouvoir vendre en direct, et je pense que c'est ce qui est important, et c'est parce que le modèle wholesale, je suis pas sûr que ce soit un modèle qui puisse pour une jeune marque comme même pour Maison Châteaurouge, c'est pas un modèle qui nous permet de pouvoir durer dans le temps. C'est hyper contraignant, ça nous demande énormément de temps pour en échange. Après, les marges sont pas les plus élevées. Et à côté de ça, en fait, aussi même en termes de prix, moi je le vois, parce que forcément, comme il faut pour lorsqu'on fait nos structures de prix, lorsqu'on décide de faire du wholesale, on a forcément des prix qui sont plus élevés que si on vendait en direct. Mmh. Et aujourd'hui, les consommateurs, je pense qu'ils sont de plus en plus exigeants et de plus en plus regardants. Et lorsqu'ils dépensent un euro, ils veulent savoir pourquoi ils dépensent cet euro-là. Et lorsqu'on a des prix qui sont beaucoup trop élevés, et souvent, en fait, nos prix, en fait, ils sont déterminés parce qu'on fait du... Enfin, du moi, je le vois, c'est parce qu'on fait du wholesale. Mmh. Et c'est pas forcément... c'est pas forcément... Pour une marque, je pense, qui veut se développer, je trouve pas que ce soit la meilleure des solutions. Après, en termes de... Pour crédibiliser la marque, nous, ça a été hyper important parce que ça nous a permis de crédibiliser la marque, d'avoir cette image de marque qu'on a aujourd'hui, parce que comme on était revendu chez de beaux points de vente, ça a permis à la marque de monter en gamme. Et après, en parallèle, voilà, moi, ce qui était hyper important pour moi depuis le début, c'était d'avoir un prix qui soit quand même accessible. Je voulais pas avoir des vêtements qui coûtent hyper cher parce que je voulais que tout le monde puisse s'habiller avec Maison Châteauroux.
Ça coûte quoi aujourd'hui, Maison Châteauroux, un t-shirt, une robe?
Un t-shirt est à 90 euros. Alors, il y a les t-shirts en molleton qui sont à 55 euros. Ensuite, on a un t-shirt en wax qui est à 90. Un top à 110 euros. On a des robes à 200 et des jupes qui tournent autour de 130 euros. Donc voilà, parce qu'on est implanté dans un quartier qui est le 18e arrondissement. Et moi, je voulais que mes sœurs, enfin les gens qui habitent le quartier, etc., puissent porter une Maison Châteauroux, que ce soit pas destiné juste à une niche ou à des gens qui ont les moyens. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, le wholesale était un moyen de faire de la communication, de nous faire connaître. Mais en parallèle, ce qui est important pour moi, c'est d'être capable de pouvoir vendre en direct.
Et donc, comment tu vois le futur, la stratégie pour les 2-3 ans qui viennent et...
La stratégie, après, elle est, nous, on n'a pas ouvert énormément de points de vente. Hein, donc, c'est de se dire, OK, on essaie d'avoir, je sais pas, une vingtaine ou même 15 ou une vingtaine de très beaux points de vente dans chaque capitale, en tout cas dans chaque capitale, des beaux points de vente. Et après, renforcer notre communauté sur les réseaux sociaux, avoir un site internet ultra performant. Et une belle boutique, un beau lieu où les gens peuvent venir aussi et découvrir l'univers de la marque, etc. Et moi, je crois beaucoup au local. C'est parce que mine de rien, enfin, je prends l'exemple d'un Palace où, bon, après aujourd'hui, Supreme est un peu partout, mais un Palace ou un Supreme, à l'époque, lorsqu'on voulait avoir du Supreme, c'était soit Internet ou la boutique qui était à New York. Palace, il fallait aller à Londres. Et je pense que c'est des modèles qui aujourd'hui, lorsque tout le monde rêverait d'avoir un site internet comme Supreme, ou lorsqu'on met un drop, au bout de quelques secondes,
il n'y a plus rien.
Ouais. Mais parce qu'ils ont une forte communauté derrière. Et que lorsque les gens vont dans la ville où ils se situent, ils ont envie d'aller voir le shop. Et je pense que c'est ce qu'on doit essayer de faire aussi à notre niveau.
Et comment tu l'as construit, alors, cette communauté aujourd'hui?
Cette communauté, comment on l'a construit? Nous, c'est à travers les réseaux sociaux, à travers Instagram. Instagram, c'est un très bel outil pour nous.
Mais comment tu l'as fait?
On la fédère à travers le contenu, à travers l'histoire qu'on raconte autour de la marque, les projets qu'on réalise, même au sein du quartier. Par exemple, la dernière Fashion Week, on a réalisé un événement qui s'appelait le Châteaurouge Street Market pour la présentation de la collection, où on a fait appel au couturier qui est juste en face de la boutique, l'épicerie, donc Koyaka Market, où on a fait un stand épicerie. Donc les coiffeuses en face de la boutique qui ont fait un stand de tresse. On avait le disquaire qui est rue juste derrière, donc près de la rue des Poissonniers, qui a lui aussi fait un petit espace avec des vinyles, etc. On avait le tailleur aussi du quartier qui était présent. Et du coup, on a recréé l'espace, donc Châteaurouge, un mini Châteaurouge. C'était au café à la maison de l'architecture. Et c'était hyper important pour nous de faire ça, parce que c'est comme ça qu'on arrive à fédérer à la fois toute une communauté, même autour du quartier, mais aussi que les gens aient envie d'y adhérer et de faire partie de cette histoire. Et c'est ce qui est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on essaie à chaque fois de collaborer avec pas mal de personnes. Et parce que c'est comme ça qu'on arrive à renforcer notre communauté. Et en parallèle aussi, les collaborations nous permettent ça. Lorsqu'on fait une collaboration avec Monoprix, forcément, ça nous permet aussi de nous faire connaître auprès de la communauté des gens qui suivent Monoprix. Et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter notre communauté également. Lorsqu'on fait une collaboration avec Béton Ciré, c'est pareil aussi. Lorsqu'on fait une collaboration avec Sawa Shoes aussi, c'est pareil. Là, récemment, en février dernier, on avait fait une collaboration avec Sandstorm, qui est une marque kenyane. On a fait le lancement au Kenya également. Mais c'est un moyen aussi pour nous de raconter une histoire qui est différente, qui se passe sur le continent, et de fédérer aussi une communauté qui est présente sur le continent africain. Et à chaque fois, en fait, tous nos projets qu'on réalise sont tournés autour de ça. Et je pense que c'est à travers un message et une envie commune. Et je pense qu'aujourd'hui, tout consommateur, en fait, toutes les personnes qui consomment sont conscients, en fait, que lorsqu'ils consomment, Ça, c'est un acte citoyen, en fait. On sait qu'il y a des conséquences et on veut bien consommer. Mmh.
Tu le sens, ça, aujourd'hui, maintenant?
Ah, moi, je le sens, mais à 100%. Et moi, je suis le premier aussi, déjà, à le faire.
Ouais.
Et comme je suis le premier à le faire, je pense qu'on est plusieurs à être dans le, ouais. Même je le vois à la boutique. Enfin, les gens, et même, c'est assez particulier parce que je sais pas comment c'est pour les autres marques.
Ouais.
Mais moi, en tout cas, à mon niveau, je dois me justifier tout le temps. Lorsque je fais du wax, je dois être capable de dire où est-ce que j'ai acheté mon wax, pourquoi j'ai fait du wax. Et tout le monde me demande, en fait, peu importe ce que je fais, même lorsque je fais une collaboration, à chaque fois, on m'attend au tournant pour me demander pourquoi cette collaboration, pourquoi avec un tel, pourquoi tu as utilisé ce tissu, etc.
Tes clients te posent des questions en direct?
Même là, à la boutique, il y a des clients qui viennent parfois et qui nous demandent d'où vient ce tissu.
Et alors,
est-ce que c'est bien fabriqué, etc.
Et je te pose des questions à mon tour.
Oui, ce tissu, par exemple, le wax, donc nous, on l'achète dans le quartier, mais c'est un tissu qui vient d'Hollande et qui ne vient pas d'Afrique.
D'accord.
Et c'est ça, en fait. Donc, il y a forcément beaucoup de polémiques autour de ce tissu. Mmh. Et ce qui fait qu'à chaque fois, moi, je dois me justifier. Là, par exemple, là, on travaille sur du wax ivoirien qu'on achète en Côte d'Ivoire, etc. Mais à chaque fois, voilà, on doit le dire. Même si, pour nous, c'est par rapport à notre projet Les Oiseaux Migrateurs, ça a énormément de sens. Mais à côté de ça, je suis pas sûr que tous les designers ou toutes les marques doivent se justifier autant de la provenance de leur tissu, etc. Mais moi, je trouve que c'est intéressant
et ça me
fait pas
bien,
et ça me fait pas peur, ça me challenge exactement et ça me pousse à me dire ok, on a une clientèle qui est informée, qui veut ça, qui veut donner du sens à ses achats. Et je pense que même, je sais pas, par exemple, moi, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font de l'upcycling, etc. Et à chaque fois, je me dis, c'est hyper, je pense que c'est hyper important que ça se fasse, etc. Et en face, en fait, il faut qu'il y ait des gros aussi qui le fassent. Enfin, s'il n'y a pas de gros, parce que si les grosses entreprises le font, là, ça crée des changements concrets. Et là, en ayant des consommateurs qui aujourd'hui sont hyper regardants, ça pousse des grandes entreprises à réfléchir leur modèle et se dire, OK, si on veut toucher, si on veut garder nos clients, il faut qu'on s'adapte parce que leurs demandes et leurs attentes changent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et clairement, on le voit. Par exemple, là, le plastique est en train de disparaître petit à petit. Et dans la mode aussi, on le voit de plus en plus. On a des initiatives qui se font de plus en plus chez les grandes marques. Et même aussi, je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de grandes marques collaborent avec des plus jeunes marques. Parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps, elles ont eu à marketer leur histoire, faire du storytelling, etc. Et aujourd'hui, les gens sont plus... comment dire ça,
ils sont plus dupes
exactement et ils veulent des vraies histoires et pour qu'elles puissent raconter des vraies histoires, elles essaient de se pluguer à des marques qui ont des vraies histoires et ensuite de raconter une histoire commune.
T'as des grosses marques, toi, enfin de luxe ou des belles marques, enfin haut de gamme, qui viennent me chercher?
Je peux pas tout dire pour
ça
l'instant.
Veut dire oui. C'est bon,
non,
ça.
Mais on a quand même des marques qui viennent
cool.
nous voir,
c'est ouais. chouette. Et alors, mais d'après toi, comment ça se fait que t'attires autant de bienveillance et que t'ouvres autant de portes?
C'est une bonne question. Avec le recul, moi, je pense que c'est la... J'essaie, en tout cas, à mon niveau, j'essaie d'être sincère dans tout ce que je fais. Je ne me mens pas à moi-même et même dans mon produit, dans ce que je fais depuis le début, tout a été réfléchi et j'essaie vraiment d'être sincère dans ce que je fais. Et je pense qu'autour de moi, il y a plein de choses qui se sont passées et même, je prends l'exemple même de Pierre-François Lelouette qui, depuis le début aussi, nous accompagne, nous aide. Même je me suis retrouvé à faire le voyage présidentiel parce que je crois que c'est la Fédération française du prêt-à-porter qui avait fait un article dans le magazine Fédération, qui s'est retrouvé chez le directeur général de la BPI. Ensuite, ça allait au protocole de l'Élysée. Ensuite, pour le premier voyage du président, on m'a demandé de l'accompagner lors de sa tournée en Afrique. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui arrivent parce que les gens croient au projet et je pense qu'ils sentent que c'est un projet qui vient du... Enfin, moi, en tout cas, moi, je le vis comme ça, mais ça vient du fond du cœur. C'est quelque chose de... Enfin, j'ai foi en ce que je fais. J'y crois, mais
à 2000%,
mais à 2000%, hein. Vraiment. Et malgré toutes les barrières, et je pourrais dire énormément de choses sur d'où je viens, comment ça a été fait, etc. Même avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, mais qui aujourd'hui, en fait, à chaque fois, le projet, année après année, prend de l'ampleur parce qu'il y a des gens bienveillants autour de moi qui ont envie de voir le projet aller le plus loin possible et qui me donnent les moyens de pouvoir le faire. Et moi, ça me touche énormément. Et je pense que c'est la seule chose qui fait ça. Après moi, c'est ma mère et mes parents qui m'ont appris ça, qui me disent à partir du moment où tu es juste et que tu es sincère, tu peux tout faire. Parce que tu ne mens pas. Et puis je pense que aussi mes parents, ils sont pour beaucoup, parce que voilà, je pense qu'ils ont beaucoup, enfin, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais ils ont fait beaucoup de choses pour moi. Et moi, en tout cas, à mon niveau, c'est la moindre des choses de faire ce que je fais aujourd'hui pour leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Et c'est pour ça aussi que je pense que rien ne peut m'arrêter. Enfin, je vais toujours essayer de faire mon maximum pour y arriver et pour amener ce projet le plus loin possible. Et même, comme je disais au départ sur l'entrepreneuriat, c'est que pendant longtemps, en fait, moi, je me suis dit, ben, je suis pas du tout d'une famille entrepreneur. Et avec le recul, en fait, j'y réfléchissais. Et mon père, en fait, il est venu en France à l'âge de 25 ans. Et moi, 25 ans, c'est l'âge auquel j'ai lancé Maison Château Rouge. Et là, en fait, j'ai fait un parallèle entre nos deux vies où je me suis dit, mais en fait, à 25 ans, il a quitté sa famille pour venir en France. Je crois qu'il a mis énormément de temps. En plus, je crois que c'est presque un mois pour arriver en France, quitter sa famille, partir à zéro et fonder une famille en France. On est 7 enfants. Chacun, en plus, a poursuivi des études dans le supérieur, a un bon poste en entreprise, etc. Et je me dis que ça, c'est la plus belle entreprise qu'il ait pu réaliser. Donc, à côté de ça, moi, ce que je fais, c'est pas grand-chose.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, je me dis que ben, cette âme d'entrepreneur, je la tiens de lui.
Trop bien. Bah, écoute, j'ai envie de finir sur ces mots-là qui sont très beaux. Il nous reste quelques minutes. Je sais pas sur quoi te relancer parce que...
Ah, tu veux me relancer sur...
Non, mais en fait, je pense que ce serait un épisode qui pourrait durer 2 heures. Malheureusement, je dois partir. J'ai un autre rendez-vous derrière. Mais sinon, on peut continuer l'épisode un autre jour si tu veux.
Un autre jour, avec grand plaisir.
Ouais.
On fera une deuxième partie.
On fera une deuxième partie.
Pour voir l'évolution, si tu veux.
Ouais, exactement. Ouais, carrément. Sinon, on peut se revoir dans 2 ans. Non, la question que j'avais, c'était... Enfin, tu t'imagines comment dans 10 ans, quoi? Parce que t'as parcouru tellement de chemin en si peu de temps.
Ouais. Bah, justement, et je pense que je peux pas m'imaginer dans 10 ans, parce que il y a 2 ans, si on me demandait ce que ce serait Maison Château, et ce que je serais aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé que ce serait ce que c'est aujourd'hui. Donc, si tu me demandes dans 10 ans, je me tromperais forcément. Donc, je préfère être sur le présent, faire tout le nécessaire, bah, pour que la marque continue, avance, etc. Et puis dans 10 ans, ben on se reverra et puis on en reparlera.
Mais je suis sûr qu'on se reverra avant.
Non, on se reverra avant, ça c'est sûr. Mais non, je pense qu'en tout cas, nous, on veut faire une belle PME familiale.
Ouais.
Et puis contribuer à réinventer les échanges entre la France et l'Afrique. Parce que mine de rien, ça a quand même traumatisé aussi toute une génération.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, ben, on est une nouvelle génération qui arrivons et qui avons la possibilité aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a dans le monde, de réinventer ces échanges et faire quelque chose de bien. Et on essaie de le faire à notre niveau et on est content parce qu'on sent que tout le monde a envie de changer les choses et on n'est pas tout seul. Donc, c'est hyper positif.
Trop bien. Et ben, merci beaucoup. Dernière question pour clôturer. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
C'est dur. Tu sais, j'ai pensé beaucoup. Parce que je me suis dit, cette question... Non, bah, tout à l'heure, moi, je parlais de Priscilla.
Djoko.
Ouais, Djoko, qui... moi, je trouve que c'est toujours intéressant de parler avec elle parce qu'en fait, elle a vu plein de marques. Et comme elle a vu plein de marques, bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'ils ont un regard qui est extérieur à la mode et qui est pas subjectif. Donc, c'est... Il faut pas que je me trompe, hein, sinon. Ouais. Mais qui est pas subjectif et qui est lié à des vrais cas. Et souvent, donc, j'aime bien discuter avec elle pour avoir son avis, pour qu'elle me dise, voilà, je sais que certaines marques ont fait ça, ça a pas marché. Donc, le mieux, c'est peut-être de faire ça ou là, faut aller plutôt vers ça. Donc, je pense que ce serait intéressant de l'écouter. Après, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je pense que c'est déjà bien.
Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Tu peux en faire 10. Ok, très bien. Et bah, cool. Écoute, merci beaucoup. Good luck pour la suite et à très bientôt. Salut.
Merci Adrien.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.